pour laquelle vous m'avez invité, parce que bon, j'enseigne la Bible, ce qui fait que, avec le sujet l'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament, je peux vous donner un petit exemplier. Donc vous comprenez que dans un sujet pareil, l'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament, je suis plus à l'aise avec la partie Ancien et Nouveau Testament qu'avec la partie Église du sujet. Mais un sujet pareil veut dire que, plus largement, ce problème, c'est celui qui fait que l'Alliance, qui jusque-là était réservée au peuple d'Israël, a été étendue à toutes les nations. C'est pour ça qu'on veut parler de l'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça veut dire aussi qu'on a deux branches d'une alternative qui sont à tenir, qu'on trouve comme telle dans la Bible. La première branche, c'est que, d'une part, il y a la faute d'Israël qui n'a pas reconnu sa visitation. Pour ça, je vous renvoie à certaines paraboles de Jésus qu'on peut interpréter en ce sens. La parabole des vignerons homicides, hein, vous savez qu'on a lu il n'y a pas très longtemps, à la messe. Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, il donnera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en temps voulu. » Et toujours dans cette idée, l'idée que le salut universel étant la mission de l'Église à la terre entière, ça c'est Jésus qui le dit à la fin de l'évangile de Matthieu, « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc ça c'est la première branche de l'alternative. La deuxième branche qu'il faut tenir, c'est le lien de permanence et de continuité qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors pour ça, je vous ai mis une citation de Romains 11, que vous connaissez tous par cœur, bien évidemment. « Si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes de l'olivier pour avoir part avec elle à la richesse de la racine, ne va pas faire le fier aux dépens des branches. Tu peux bien faire le fier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tu diras sans doute, des branches ont été coupées pour que moi je sois greffé, fort bien, elles ont été coupées à cause de leur infidélité, et toi, c'est par la foi que tu tiens. Ne t'enorgueillis pas, crains plutôt, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Et donc Paul souligne ici la continuité entre l'Église de l'Ancien et du Nouveau. Témoignent de cela d'autres passages qu'on trouve aussi chez Paul, sur des passages sur le Temple, ou dans l'Épître aux Hébreux, sur le peuple de Dieu. Donc, deux branches d'une alternative à tenir, c'est ce qui fait que cet énoncé, l'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament, est un énoncé problématique. Car enfin, la question qui se pose à nous, c'est comment est-ce qu'il peut y avoir une Église de l'Ancien Testament. Telle que la conçoit le christianisme, l'Église apparaît a priori seulement à l'époque du Nouveau Testament. Le mystère de l'Église, constitué ou non depuis l'Ancien Testament, c'est une question qui est scrutée depuis très longtemps par les théologiens. Je vous renvoie là-dessus, il y a une étude qui a été faite là-dessus par le père Congar qui s'appelle Ecclesia ab Abel. Très belle étude qui part de saint Augustin, justement, qui, lorsqu'il écrit la cité de Dieu, commence par dire « la cité de Dieu, elle a commencé avec Abel, puisque Caïn édifie la cité des hommes ». Vous savez, Caïn, c'est celui qui fait les premières villes, justement. Mais le but de cet exposé, ce n'est pas de faire un exposé de la théologie des pères de l'Église. Je vais rester dans la Bible. Et donc, je vais essayer d'abord de vous montrer assez rapidement ce que dit le Nouveau Testament de l'Église, avant de voir comment nous pouvons, à travers quelques textes de l'Ancien Testament, avancer et explorer dans cette compréhension de ce qu'est l'Église. Et donc, ça veut dire qu'on partira du Nouveau Testament pour aller vers l'Ancien Testament. Voilà. Ce qui est un peu le mouvement inverse des Écritures, vous me direz. Mais c'est aussi ce que fait Jésus, par exemple, avec les disciples d'Emmaüs. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot « ecclesia », Église, n'apparaît qu'à quelques reprises dans les Évangiles. J'y reviendrai à la fin de l'exposé. Et je mets un peu les Évangiles à part. Là où le mot « église » est le plus répandu, vous le savez sans doute, c'est dans les Actes et chez Paul. Avant de savoir ce que c'est que l'église, voyons un peu comment elle apparaît. Elle apparaît d'abord, de façon évidente, comme une assemblée cultuelle dans les récits du Nouveau Testament. Ceux qui croient en Jésus se réunissent en assemblée, aussitôt après Pâques, et dans les Actes, ce mouvement de rassemblement est rattaché à l'effusion de l'Esprit-Saint et au discours de Pierre. Donc, je vous ai mis une citation de Acte 2, qui se situe donc après, juste après la Pentecôte, le récit de la Pentecôte. Vous vous souvenez, le récit de la Pentecôte, il y a la descente de l'Esprit-Saint, Pierre sort, proclame son discours, dont on reparlera tout à la fin de l'exposé. Et à ce moment-là, acte 2, verset 40, « Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Donc là, acte 2, 42, on a le modèle idéal de la communauté chrétienne primitive, enseignement des apôtres, fraction du pain, prière, une forme de vie commune à caractère caritatif. Et ce qui fait la communauté, c'est donc le baptême et la fraction du pain. Chez Paul, l'Église se présente comme la communauté du Christ. Les chrétiens forment une communauté par leur existence en Christ. Et donc cela fait de l'ancrage christologique un trait fondamental de l'Église paulinienne. Le baptême donne part à la mort et à la résurrection du Christ. Il construit et constitue ainsi le corps du Christ. Ce qui fait que chez Paul, l'appartenance au Christ abolit tout autre pouvoir de séparation, toutes les différences telles que celles du sexe, de la nationalité, du statut social, etc. Ça, ce sont des textes que je suppose vous connaissez déjà assez bien. Donc je vous ai mis une citation donc de Galates 3, 26-29. « Car tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham, selon la promesse, vous êtes héritier. » Il n'y a plus ces différences en Christ. Il n'y a plus ces différences et chaque baptisé devient un membre du corps du Christ. 1 Corinthiens 12, pardon. En effet, prenons comme comparaison, le corps est un et pourtant il a plusieurs membres, mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. La scène, la communion, nous donne part au corps du Christ, et donc nous ne formons qu'un seul corps. Encore 1 Corinthiens, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ, le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ, puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. Alors cette idée que nous formons le corps du Christ, Paul la tire vraisemblablement de la politique grecque de la cité. Ce qui fait que ecclésia, vous savez, c'est un terme qui, je ne vous l'apprends pas, je suppose, qui vient de la démocratie athénienne, l'ecclésia comme assemblée, ceux qui sont appelés. Et déjà, la pensée de la communauté de l'ecclésia comme un corps ressortit à ce champ lexical. Elle assimile la cité à un corps composé de plusieurs membres, chacun accomplissant sa tâche propre. Et donc ça, on va retrouver chez saint Paul très fréquemment dans l'épître aux Romains et dans la première aux Corinthiens. Donc Épître aux Romains, vous pouvez regarder chapitre 12, et de même, l'ensemble du chapitre 12 de la première aux Corinthiens. Cette pensée évolue par la suite chez saint Paul, dans les lettres qu'on appelle deutéropauliniennes, l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens notamment, puisque dans ces lettres, l'Église est non seulement corps du Christ, mais le Christ devient la tête. Le Christ devient la tête. Dans l'épître aux Colossiens, le Christ est le plérôme de Dieu. Le Christ est le plérôme de Dieu, c'est-à-dire qu'il récapitule Dieu. Et en Éphésiens, toujours, l'Église devient le plérôme du Christ. Elle devient le Christ total. Dans ces lettres de Paul, l'Église revêt une dimension de mystère. Le mystère qui est complété par l'image que Paul utilise de l'époux et de l'épouse. Je vous ai mis Éphésiens 1, 22. « Oui, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné au sommet de tout pour tête à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. » Vous voyez ce vocabulaire de plénitude qui fait que l'Église devient plérôme du Christ. Éphésiens 5, « Car le mari est le chef de sa femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son corps. » Dans l'Épître aux Éphésiens, l'Église est un mystère. Un mystère, vous savez, c'est ce qu'on a à toujours comprendre davantage, ce qui donne toujours une intelligibilité toujours plus grande. Et donc, Paul scrute le mystère de l'Église et le mystère à travers, avec le mystère de l'homme et de la femme. C'est un peu comme deux mystères qui se répondent l'un à l'autre, l'un étant image de l'autre. Enfin, dans l'Épître aux Éphésiens, et c'est là où je veux en arriver, en récapitulant un peu tout ce qu'on a dit, le Christ étant le plérôme, celui qui accomplit l'unité, le Christ étant celui qui abolit les forces de division, Paul arrive à une définition de ce mystère dans le chapitre 2. C'est lui, en effet, le Christ, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Donc là, vous voyez, Paul parle de la croix comme ce qui abolit toute force de séparation, et il place au cœur de ce qui crée l'unité, la réconciliation. Et donc ici, c'est un peu la perspective majeure que j'ai choisie pour cet exposé, c'est celle de la réconciliation. Pour vous parler de l'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament, j'aurais pu aborder d'autres manières, d'autres qui sont plus latérales, à mon sens, comme l'époux et l'épouse, on retrouve voilà, comment Dieu fait alliance avec son peuple, ou encore la question de la cité, de la citoyenneté, la Jérusalem céleste, qui sont des images qu'on trouve à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais il m'a paru plus central, surtout en cette période de carême, de revenir sur le cœur, ce qui fait le cœur de cette unité de l'Église, qui est la réconciliation. L'Église est inscrite parmi les événements futurs attendus par les Juifs que le Christ réalise par sa croix. Il y a Église là où il y a réconciliation, et là où il y a réconciliation se trouve l'Église. À partir de là, je voudrais passer à présent à l'Ancien Testament. Alors, avant de reprendre cette problématique de la réconciliation, je voudrais vous faire un tout petit avant-propos sur ce qu'on lit habituellement au sujet de l'Église de l'Ancien Testament. En général, on commence par dire que le mot « ecclésia » est la traduction dans la Septante du terme « kahal », kahal, donc Q-A-H-A-L. Et beaucoup d'auteurs commencent par dire que ce « kahal » serait l'assemblée convoquée par le peuple et, en tant que telle, une figure de l'Église. Pourquoi pas ? Cependant, le mot « kahal », si on regarde un peu les occurrences de ce mot et le sens qu'il a, ce mot « kahal », de manière massive, désigne une armée en campagne. Ça ne correspond pas tout à fait à l'idée qu'on peut se faire de l'Ecclésia. Mais ça correspond tout à fait à ce que ça veut dire en grec, hein, de fait. En revanche, l'autre terme qui revient beaucoup pour désigner la communauté du peuple d'Israël et qui convient beaucoup mieux pour nous, c'est le terme « Eda ». « Eda » qui signifie « communauté ». Enfin, on le traduit souvent par « communauté ». Et dans le grec de la Septante, il est traduit par « synagogue », hein, donc « assemblée », là aussi. Voilà, « Eda ». Et enfin, un troisième mot important, puisque je vous l'ai déjà signalé à propos de la lettre aux Hébreux, c'est tout simplement le mot « peuple »,« âme », le peuple d'Israël, qui, en tant que tel, constitue une figure de l'Église.
Laos en grec.
Laos.
Ouais.
Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous ai dit au sujet de Kahal connaît une inflexion. Après l'épreuve de l'exil, ça va pour tout le monde. Le fait que donc vous savez, hein, en 587, le royaume de Juda est conquis par les Babyloniens, par le roi Nabuchodonosor, et les élites et les chefs du peuple des Judéens sont envoyés en exil à Babylone. Et donc là, 587, le moment de l'exil, c'est la fin de tout, la fin du temple, la fin de la monarchie, la fin d'un pays juif indépendant, quoi, en gros. Et c'est le début de la diaspora. Et après l'épreuve de l'exil, le mot kahal prend le sens de communauté cultuelle dans la théologie post-exilique, donc dans la théologie d'après l'exil. Quand les exilés reviennent, quand Esdras fait la lecture de la Torah devant le peuple, eh bien à ce moment-là, il fait la lecture de la Torah devant le Kahal, devant le Kehal Israël, donc l'Assemblée d'Israël. Donc là, on a une légère inflexion. Cependant, le peuple est constitué, et c'est aussi un fait de la théologie exilique, le peuple est constitué par le don de la Torah, par le don de l'Alliance, en Exode 19 à 24. Alors, je vous ai mis deux citations importantes de ce moment. Le premier, c'est Exode 19, 6. Dieu qui dit à Moïse, qui dit au peuple par l'intermédiaire de Moïse, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Donc c'est là qu'il constitue le peuple comme ce qui ressemble beaucoup à l'Église, un royaume de prêtres et une nation sainte. Et Exode 24, donc entre les deux, il y a les 10 commandements, le code de l'Alliance, etc., les lois que Dieu donne, la Torah. Et à la fin, le peuple répond, en ratifiant ce qui vient de se faire, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous l'écouterons. Hein, » c'est le fameux « Naase venishma ». On va commencer par mettre en pratique et ensuite on écoutera ce qui va ensemble, évidemment. Et donc c'est là qu'on voit aussi que Dieu dit quelque chose et il attend une réponse. Cette réponse, c'est à la fois action et écoute. Nous le ferons, nous mettrons en pratique et nous l'écouterons. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Vous savez que cette alliance est mise en crise dans le même livre de l'Exode, au chapitre 32 à 34, lors du veau d'or, lors de l'épisode du veau d'or. Et pour que l'alliance soit renouvelée, cela nécessite l'intercession de Moïse. Et donc, c'est Moïse qui permet au peuple des Hébreux, au peuple dans le désert, de se constituer en tant que peuple. Et c'est pourquoi, dans tout l'Ancien Testament, vous aurez des références à l'Exode, dans la littérature prophétique, des références au passage dans le désert, où Dieu dit « Souviens-toi, dans le désert, tu étais comme une jeune épousée. Souviens-toi de l'amour que tu avais pour moi quand tu étais dans le désert. » Le temps du désert, c'est un peu, pour la mémoire d'Israël, le temps des fiançailles avec le Seigneur. Donc, Israël comme une jeune épousée. Quand Moïse meurt, il transmet à Israël la Torah comme son bien propre, et cette Torah devient le patrimoine commun de tout Israël. La Bible met en scène la subsistance de cette Torah au beau milieu de la division du royaume de David en deux parties, et c'est la Torah qui fait l'unité du peuple. La Torah, et à travers elle, c'est l'obéissance du peuple, l'obéissance du roi d'ailleurs, au premier chef, qui doit conférer au peuple sa sainteté. C'est l'obéissance à la Torah qui fait que le peuple devient un royaume de prêtres, une nation sainte, de cette sainteté de Dieu. Dieu dit, hein, vous savez, vous soyez saints comme je suis saint. La catastrophe et la chute du royaume du Nord, d'abord, en 721, puis de l'exil en 587, sont relus par les rédacteurs de la Bible comme le fruit des manquements permanents du peuple à la Torah de Moïse. C'est parce que nous n'avons pas obéi à la Torah que nous connaissons la catastrophe. La catastrophe qui fait que le royaume n'existe plus et nous n'existons plus en tant que peuple. Et ces deux circonstances historiques, donc la chute du royaume du Nord et l'exil, permettent à Israël de méditer sur sa propre unité. À deux reprises, la première c'est après la chute du royaume du Nord, est-ce qu'on doit accepter les migrants qui affluent au sud en venant du Nord ? Et au retour d'exil, dans un contexte de diaspora, qu'est-ce qui relie concrètement Israël à l'alliance du Sinaï. Qu'est-ce qui relie concrètement Israël à l'alliance? Quelle est la place des nations dans le dessein de Dieu? À ces questions tentent de répondre les prophètes scripturaires. Donc après la Torah, nous allons entrer chez les prophètes. Nous allons entrer chez les prophètes, et alors il a fallu faire des choix, mais aujourd'hui j'ai voulu vous lire avec vous quelques extraits du prophète Isaïe qui peuvent nous mener à une réflexion sur l'Église, justement, l'Église comme lieu de réconciliation et d'unité. Le retour des exilés venant de la diaspora, dans le livre d'Isaïe, on commence à en parler au chapitre 40. Alors on en parle de manière très voilée, mais on peut néanmoins les retrouver. Chapitre 40, vous savez, c'est un chapitre que vous connaissez parce qu'on le lit pendant le temps de l'Avent. C'est le chapitre qui commence par « Consolez, consolez mon peuple ».« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, rassurez Jérusalem, proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli ». Voilà, l'exil est fini, donc c'est le moment de la consolation. Au moment de cette consolation, justement, dans ce chapitre 40, dans cette annonce où Dieu annonce qu'il va venir lui-même, les versets 9, 10, 11 de ce chapitre 40 montrent que Dieu doit rassembler son peuple. Donc ça, je vous l'ai mis, je pense, dans l'exemplier. Isaïe 40, versets 9 à 11. « Quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix. Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté. Voici avec lui son salaire et devant lui sa récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau de son bras, il le rassemble, il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Dieu comme pasteur rassemble son peuple. Alors nous nous trouvons ici, donc au début de ce livre de la consolation d'Isaïe, après les épreuves, Dieu va venir lui-même pour rassembler les exilés, pour reconstituer cette unité du peuple qui avait été perdue dans l'exil. Au fil de cette partie du livre d'Isaïe, à partir de ce chapitre 40, la tâche du rassemblement revient à divers personnages. D'abord, elle est attribuée à un roi païen, le roi Cyrus. Et puis se dédouble de ce Cyrus un autre personnage, le mystérieux serviteur du Seigneur. Ce serviteur entre en scène au chapitre 42. Là aussi, ce sont des textes que vous connaissez. On les lit cela pendant le temps du carême. Et je vous ai mis quelques versets sur la feuille. Donc, chapitre 42. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement. » Et verset 6. « C'est moi le Seigneur. Je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à être la lumière des nations, à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot le prisonnier, de la maison d'arrêt les habitants des ténèbres. » Donc vous voyez, ce serviteur a une double mission. Il a d'abord une mission de désaveugler, de défaire l'endurcissement d'Israël, mais aussi il a une mission destinée aux nations. Et donc il doit mettre fin à l'endurcissement, mettre fin à l'aveuglement d'Israël, mais aussi des nations. Cette mission, dans les deux oracles suivants du serviteur, cette sortie d'être d'une souffrance innocente. Dans les deux oracles suivants, le serviteur parle à la première personne et il devient objet d'outrage et de violence de la part de ceux à qui il est envoyé. Isaïe 50, versets 5 à 6. « Moi, je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas rejeté en arrière, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. » Encore un texte que je suppose vous connaissez. Le sommet de cette violence et de cette souffrance innocente est atteint dans le quatrième oracle du serviteur souffrant, oracle qui se trouve donc là aussi sur vos feuilles, Isaïe 52, 13 à 53, 12, que j'ai peur de ne pas avoir le temps de lire en entier. Non, si, ça serait... Bon. Alors, je vais quand même vous le lire. Et en écoutant, essayez de voir... Qui parle ? Qui a la parole ? Voici que mon serviteur réussira. Il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême. De même que les foules ont été horrifiées à son sujet, à ce point détruites, son apparence n'était plus celle d'un homme et son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même, à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées, des rois vont rester bouche close, car ils voient ce qui ne leur avait pas été raconté, ils observent ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire ? Le bras du Seigneur en faveur de qui a-t-il été dévoilé ? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence tel que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était transpercé à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, le gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants. Nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir, Comme une brebis devant ceux qui la tondent, elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte, sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération, qui se préoccupent d'eux ? Oui, il a été retranché de la terre des vivants. À cause de la révolte de son peuple, le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas commis de violence, qu'il n'y eut pas de fraude dans sa bouche. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur aboutira. Ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours, sitôt connu juste, il dispensera la justice, lui, mon serviteur, au profit des foules, du fait que lui-même supporte leur perversité. Dès lors, je lui taillerai sa part dans les foules, et c'est avec des myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs, il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules, et que pour les pécheurs, il vient s'interposer. Dans cet oracle, deux voix se font entendre. Deux voix se font entendre. La première, c'est la voix de Dieu, qui dit « mon serviteur », au début et à la fin. Vous voyez les versets 13 à 15 et les versets 11 à 12. Et il y a une deuxième voix, qui est celle d'un sujet collectif, qui dit « nous ». Verset 1 du chapitre 53, « qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire ». Mais à l'intérieur de ce que dit ce « nous », on a deux tons ou deux modes. On a un mode narratif, le « nous » qui raconte une histoire, l'histoire de ce serviteur. Un mode narratif et un mode subjectif, où le « nous » apparaît dans sa subjectivité, touché par le récit qu'il transmet. Vous voyez, verset 4-5, « En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous, nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. » Le « nous » raconte l'histoire du serviteur, ce serviteur qui connaît une souffrance qui va jusqu'à la mort, verset 5. Lui, il était transpercé à cause de nos révoltes, une mort violente, broyé à cause de nos perversités. Et en face, le « nous » qui est comme transformé par le récit que ce groupe transmet. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin. Nous nous tournions chacun vers son chemin. C'est-à-dire que, précisément, ils étaient dispersés. Et le fait de voir le serviteur, de transmettre le récit de sa passion, c'est ce qui fait que le « nous » devient un groupe subjectif, un « nous » collectif. Autrement dit, le texte transmet un récit de passion, le récit de la passion du serviteur, mais il transmet quelque chose en plus. Il transmet la transformation de ce « nous ». Ce groupe du « nous », pour parler en jargon. Ce groupe du « nous » où chacun allait son chemin, et ils finissent par être rassemblés par le fait même qu'ils confessent leur propre faute. Il était transpercé à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Dans ses plaies se trouvait notre guérison. C'est lorsque le nous reconnaît qu'il est pardonné, qu'il est changé. Il devient justement ce nous. Le Seigneur a guéri dans le peuple ce que le peuple avait d'inguérissable. Et donc, le rassemblement se fait par la reconnaissance de cette nouveauté. Le juste qui souffre et qui meurt peut ainsi connaître une descendance. Alors ça, c'est les versets 10, 11, 12 qui sont un petit peu complexe, je ne vais malheureusement pas pouvoir m'attarder dessus. Ce juste, ce serviteur, qui connaît la mort, est par la suite glorifié dans le livre d'Isaïe, et de nouveau, il invite, au chapitre 55, au chapitre 61, il invite plus largement d'autres à le rejoindre. Alors, un récit de passion qui transmet plus qu'une passion, ça nous permet de faire un bond dans le Nouveau Testament. Et nous retrouvons les Actes des Apôtres. Je vous lis le discours de Pierre juste après la Pentecôte. « Israélites, écoutez mes paroles. Jésus, le Nazoréen, homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. David en effet dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur était dans la joie et ma langue a chanté d'allégresse. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Frère, il est permis de vous le dire avec assurance. Le patriarche David est mort, il a été enseveli, son tombeau se trouve encore chez nous, mais il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône quelqu'un de sa descendance issue de ses reins. Il a donc vu d'avance la résurrection du Christ et c'est à son propos qu'il a dit « Il n'a pas été abandonné au séjour des morts, il n'a pas connu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Exalté à la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Je vais directement au verset 37, réaction de l'auditoire. « Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres « Que ferons-nous, frères ? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qui est destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Ainsi donc, ce qui rassemble, c'est ce récit de la Passion. Pierre fait un récit de la Passion aux disciples, à son auditoire, et ce récit de la Passion a chez cet auditoire la même réaction que le « nous » qui rapporte le récit de la passion du serviteur. Cela est médité par saint Jean, dans l'évangile de Jean, dans tout ce que vous trouvez autour du Fils de l'homme qui est élevé de terre. « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, dit Jésus, j'attirerai à moi tous les hommes, comme ce serviteur qui attire le nous. » Il attire ce groupe du nous, et les oracles du serviteur alternent dans cette partie du livre d'Isaïe avec des oracles sur la fille de Sion, les oracles de la fille de Sion, les oracles sur Jérusalem. En même temps que le serviteur souffre et meurt, ressuscite et recrée la communauté, en même temps est annoncée la renaissance de Jérusalem. Alors là, on retrouve toute la thématique que je vous ai évoquée, celle de la Jérusalem céleste et des épousailles. Mais je crois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Donc vous pourrez lire Isaïe 54, où la Vierge, la fille de Sion, enfante des hommes justes. Versets 6 et 7. De ce chapitre 54, « Eut-elle une femme abandonnée dont l'esprit est accablé, le Seigneur t'a rappelé. La femme des jeunes années, vraiment serait-elle rejetée, a dit ton Dieu. Un bref instant, je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. » Et verset 13-14, « Tous tes fils seront disciples du Seigneur. Grande sera la paix de tes fils. Dans la justice, tu seras stabilisé. » À partir de ce dialogue entre le serviteur et la fille de Sion, toutes les nations sont appelées à participer, à entrer dans ce troupeau rassemblé par le serviteur, ce qui culmine dans la fin du livre d'Isaïe. Alors d'abord au chapitre 55, où le serviteur invite tous les peuples à venir à un banquet. Et cela culmine au dernier chapitre d'Isaïe, chapitre 66, où toutes les nations affluent à la montagne du Seigneur, et que même parmi les nations, le Seigneur se choisit des prêtres et des lévites. Conclusion. On n'est pas allé dans les autres écrits, les proverbes, les écrits de sagesse, mais on aurait pu poursuivre la réflexion, cette réflexion sur l'invitation que fait le Seigneur et la réponse à apporter à partir des proverbes très très lus du livre des proverbes, le proverbe 8 ou Siracide 24, évidemment. Dans ce paradigme entre tout ce qui fait l'unité de l'humanité en Christ. Peut-on donc parler d'une ecclésia ab Abel, comme saint Augustin ? Abel, comme le serviteur du Seigneur, les pères ne manquent pas de le dire, Abel était à la fois pasteur, vierge et martyr. Ce qui fait qu'il cumule les citations dans le missel. Il est la figure de ceux qui ont cru dans le Messie à venir, avant ceux qui ont cru dans le Messie déjà venu. Dans l'Évangile, je vous avais dit, il n'y a pas de ecclésia explicite, sauf en quelques endroits. Il n'y a peut-être pas d'église explicite, mais en fait, si vous avez suivi cet exposé, vous avez peut-être compris que l'Évangile, un Évangile, c'est avant tout un récit de la Passion. C'est d'abord un récit de la Passion qui attend de notre part une réponse. Et donc l'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est cela, c'est notre propre réponse à l'Évangile. Après tout ce petit parcours, je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous avez quelques questions, je ne suis pas sûr, puisqu'il est déjà tard, mais n'hésitez pas.
Merci beaucoup. Dans lequel chacun se reconnaît. Mais alors, est-ce que tu dirais que, en général, chez les païens, on va plutôt faire un nous qui serait dressé de nos victoires passées, ou des mythes, je ne sais pas, et que ce qui est caractéristique de l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament, ce qui permet de dire qu'il y a un nous qui passe la frontière de l'Ancien Nouveau, c'est que c'est un nous qui est une confession collective des péchés.
Ouais.
Ça serait ça l'acte spirituel. En fait, Dieu, tu serais prêt à dire que Dieu travaille l'histoire,
oui,
pour amener les hommes et les femmes à dire ensemble nous avons péché. Ça serait plus profond comme acte spirituel que de dire simplement
c'est ça.
Monsieur le curé, pardonnez-moi parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu vois, ça serait dans la confession collective, il y a quelque chose qui pose l'Église. C'est ça que tu nous dis. Ou pas, j'ai pas bien compris le cœur de ton.
Ah oui. Alors, c'est. C'est une question intéressante. Je crois que Dieu constitue l'Église, effectivement, en l'appelant, et quand il l'appelle, il pardonne. Et que le fait que chacun se reconnaisse pécheur constitue l'Église, et c'est ça qui constitue le « nous ». Je dirais peut-être pas tout de suite que...
Parce que ce qui m'a plaisé beaucoup dans ton idée, parce que du coup, j'étais pas bien compris, c'est que, par exemple, je vois beaucoup mieux pourquoi est-ce que Jean-Baptiste prépare un peuple, oui, au Seigneur. Parce que, comme en gros, enfin, pas chez Saint-Jean, c'est Saint-Jean, il fait plus ça, mais il baptise les gens en confessant leurs péchés. Justement, c'est pas une espèce de confession anticipée. Pour moi, c'est plus une prière comme celle de Daniel 9, où t'as, nous avons fait ci, nous avons fait ça, alors qu'en fait, c'était un siècle avant.
Ouais.
Mais préparer un peuple, c'est permettre qu'il y ait des gens qui disent nous avons fait ça. Donc, on dit la confession collective prendrait le pas. De même qu'on dit la grâce individuelle, c'est toujours une participation singulière,
oui,
une grâce collective faite à l'Église.
Tout à fait. Oui,
en fait,
c'est ça.
Inversement, oui, oui. Le vrai péché, il est collectif.
Oui.
C'est ça ton idée.
Oui.
C'est vraiment original. Oui, oui. J'aime bien, c'est toi qui as inventé, ou
alors, c'est un développement. Non, c'est un développement à partir d'une idée de Paul Beauchamp.
Ok.
Qui a.
Parce que le parallèle entre Isaïe 53 et Acte 2, J'ai jamais vu ça, c'est jamais.
Ça, c'est moi, oui.
Ben, c'est vachement bien, en fait. Hein. Ben, alors, ça serait donc unique, parce que jamais, normalement, personne ne va jamais dire, on voit bien, dans le registre politique, on fuit la reconnaissance de sa faillite. On va dire, ce qui, c'est pas du tout, on est conçu. C'est pas dans une faillite collective qu'on va faire du lien social. On va plutôt idéaliser le passé en disant c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Et donc là, la Bible, elle est complètement à l'envers de tout.
Oui, complètement. Et c'est pour ça que la Bible est si drôle. C'est vrai. Parce que l'humour est la force des faibles.
Ok. Avez-vous, maintenant que ces choses sont précisées, vous avez sûrement des tas de questions.
Non, vous vous êtes... Oui.
Oui, vous êtes passé vite, du coup, sur le passage d'Isaïe 52, verset 10, je crois. Oui, c'est ça. Et je voulais que vous...
Alors, 53, 10. Alors, la première fois que j'ai entendu ce texte, de façon un peu sérieuse, c'était pendant un pèlerinage en Terre Sainte, et le prêtre qui nous accompagnait nous a lu ce passage, et il nous a dit, le verset 10, c'est le verset le plus important de toute la Bible. Alors, ça m'a fait un peu réfléchir. Et en fait, ce verset, le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance, ça comporte quelque chose de ce qu'on retrouve dans l'Évangile, du « il fallait que le Fils de l'homme souffre, il fallait ». Et en fait, on comprend à la lumière justement de cette reconnaissance du « nous », il fallait ça pour que, effectivement, le « nous » soit racheté, que nous participions à ce « nous ». Ensuite, vous voyez, sur la traduction que je vous ai mise, là, c'est la traduction de la tome, je n'ai pas modifié ici, mais j'aurais pu le faire. « Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation », ici, on a un problème textuel.
Il y a un féminin...
Alors, c'est ça. Donc, je n'ai pas de tableau. En hébreu, comme dans à peu près toutes les langues sémitiques, alors, je vais commencer autrement. Vous savez, en latin, on n'utilise pas de pronom personnel pour différencier, pour discriminer les formes verbales. On sait très bien qu'en fonction de la terminaison, on a la première, la deuxième ou la troisième personne. OK. En français, on est obligé d'utiliser... Vous savez, je prends, tu prends, il prend. C'est le grand problème des étrangers qui apprennent le français. Ils disent prend. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la première, la deuxième ou la troisième personne? Ben, c'est qu'en français, on utilise le pronom personnel. Je prends, tu prends, il ou elle prend. En hébreu, il y a bien une discrimination, donc une différence de chacune de ces formes, à la première, la deuxième et la troisième personne. Mais en plus, il y a la petite complication supplémentaire, ce qui fait qu'on doit apprendre encore plus de formes en hébreu, qu'à la deuxième et la troisième personne, on fait la différence entre le masculin et le féminin. Donc, tu féminin prend, tu masculin prend, c'est pas la même forme en hébreu. Et pareil, il et elle, on a deux formes différentes en hébreu. Mais pour ajouter un peu de piment... dans ce type de conjugaison, dans tous les verbes, la forme du « tu » masculin est la même que le « elle », donc le troisième personne féminin. «
Tu » c'est « elle » finalement.
« Tu » c'est « elle », oui c'est ça, exactement. Tout à fait. Et il se trouve qu'ici, le verbe qui est utilisé ici, c'est cette fameuse forme commune donc à la deuxième masculin et troisième féminin. Si tu fais de sa vie ou si elle fait de sa vie un sacrifice de réparation. Alors, jusque dans les années 90, les gens qui traduisaient les Bibles en français avaient un parti pris éditorial qui disait, eh bien, le texte hébreu a une erreur, c'est ça, il y a une faute. Et d'ailleurs, si vous regardez le manuscrit de Qumran, c'est très intéressant, ça, le manuscrit de Qumran, le scribe a commencé par écrire le troisième personne masculin. Et il a été corrigé. Il y a un gars qui est venu par-dessus, qui a gratouillé, qui a dit non, c'est bien une forme féminine. C'est-à-dire que la faute est très ancienne. Mais la faute est très ancienne où le texte dit autre chose. Et donc, dans la plupart des traductions des Bibles avant les années 90, vous allez trouver si il fait de sa de sa vie un sacrifice. Et en cela, d'ailleurs, on suit le texte grec qui, en grec, on ne fait pas la différence entre masculin et féminin dans les formes verbales.
C'est le célibataire souffrant lui-même qui doit vivre sa vie d'une telle sorte qu'il fait de sa vie un sacrifice.
C'est ça.
C'est ça le sens qui nous paraît le plus simple.
Tout à fait.
Pas le plus simple.
Tout à fait. Mais si, c'est ça. C'est lui. Bien. Voilà. Si lui fait de sa vie un sacrifice.
S'il
offre sa vie en sacrifice. Mais on peut très bien comprendre, comme le fait la Tobe, si tu offres sa vie en sacrifice. À ce moment-là, le destinataire est un destinataire intra ou extra diégétique, et donc typiquement le lecteur qui peut être invité à regarder ce serviteur et offrir sa vie en sacrifice. S'il fait de sa vie un sacrifice de réparation pour les péchés du nous, puisque le serviteur est sans péché, il verra une descendance. Il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur aboutira. C'est-à-dire que la volonté du Seigneur, qui était, verset 10, le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance, son aboutissement, c'est la descendance et le prolongement des jours.
Mais suspendu à la réponse du lecteur.
Suspendu à la réponse du lecteur.
C'est à lui de faire de la vie.
C'est ça. Suspendu à la réponse du lecteur. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est pour ça que l'Église naît de la confession des péchés, effectivement.
C'est ça qui fait que la mort de Jésus n'est pas vaine, en fait.
Ouais.
Donc si tu fais de sa vie, si tu fais de la vie du serviteur, si on interprète la vie du serviteur...
C'est ça, comme un sacrifice de réparation, alors il vivra, il prolongera ses jours. Alors là, il y a une grosse pancarte indiquant la résurrection. Alors, si on lit le texte vraiment à la lettre, on ne peut pas le dire tout de suite, mais pour un lecteur chrétien, c'est clairement ça. Et pareil, ayant payé de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours, verset 11. Là, vous avez des mots qui sont ajoutés par le traducteur. Ayant payé de sa personne, il verra et sera comblé. Il verra et sera comblé. Alors, vision béatifique. Allez. Donc,
ça m'a fait penser encore à un truc, c'est qu'à la messe, on commence par faire un peu un truc avec le pénitentiel, le kyrie, tout ça. En fait, souvent, on prenait en disant, on va recevoir le Seigneur, c'est bien de faire un peu le ménage, etc. Mais on se dit toujours, mais après tout, je me suis peut-être confessé la même. Si tu dis, mais c'est vraiment la confession du nous qui fait l'Église, ça paraît beaucoup plus naturel de dire, on ne peut pas recevoir le corps du Christ.
Mais déjà.
L'Église, si c'est pas au préalable, ce qui est très important, c'est encore une fois le nous.
Et déjà sa parole. C'est ça qui est. Tu vois, en fait, c'est le remède de l'endurcissement. C'est ce qui fait que.
Confession, alors on devrait faire le jeu, alors. On devrait dire.
C'est le jeu de l'Église.
Oui, mais tu vois, les prières en nous de l'Ancien Testament, peut-être qu'elles nous manifestent davantage ça.
Mais il y a un problème de satisfaction des témoins, le prêtre est d'abord seul, avant la réponse. Donc si on prend que c'est nécessairement à nous, il y a un problème de rupture là-dessus.
C'est-à-dire le confiteur. Oui.
Alors je ne sais pas quand le confiteur a été introduit, effectivement. Tu rajoutes une donnée.
Ça,
c'est sûr, oui. Mais c'est pas de confession des péchés. Ah si, oui.
Ben oui, hein. Alors, ouais, tout ce que je vous ai dit prend son sens quand Jésus dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Sur la croix, justement. Parce que Jésus n'excuse pas le péché. Hein. Il ne dit pas les pauvres petits ne sont pas au courant. Mais justement, leur péché, c'est de ne pas savoir. Vous voyez ? Et Jésus dit pardonne-leur. Vous voyez ? Là, en fait, on retrouve saint Paul. On retrouve ce que le Christ est notre Père.
Oui, c'est pas tout l'ignorance invincible, en fait, cette phrase.
Ah, je pense pas, non.
Okay, bon, qu'on arrête, mais t'as des t'es en forme là ce soir. Ah, mais c'est intéressant qu'on revienne à la suite. Hein. Moi, j'avais toujours pris comme effectivement le Jésus de Luc, il est gentil, il a l'impression. Il est gentil, le Jésus de Luc, il n'y a pas assez de Matthieu, il n'y a pas. En fait, il ne dit pas du tout pardonne-leur, parce que leur péché est très grave, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ben oui. Et c'est justement là que le Christ pardonne. Tu vois, et nous, ben c'est pourquoi est-ce qu'on regarde la croix pendant le carême? C'est à cause de ça. Pendant tout carême, on s'entraîne à regarder la croix pour recevoir le pardon de Dieu, quand même. Enfin, c'est important.
Allez, on va remplir les
sur ces entrefaites.